grand angle.
Vous êtes bien sur Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne, votre grand angle hebdo, l'actualité de ces 7 derniers jours, le sommaire. La révolte d'une partie de la jeunesse au Maroc, le mouvement Gen Z 212 demande la démission du gouvernement. Il refuse toute instrumentalisation politique. La députée PSU Nabila Mounib nous dira que les jeunes ont l'impression que les syndicats et les partis politiques ne servent plus à rien. Le nucléaire iranien, après l'ONU, l'Union européenne a confirmé lundi avoir rétabli les sanctions contre l'Iran. Éclairage sur ce dossier avec Kevan Gafaiti, enseignant à Sciences Po Paris, président fondateur de l'Institut des Relations internationales et de géopolitique. Le plan dit de paix pour la bande de Gaza verra-t-il le jour ? Sur Radio Orient, l'ancien ministre palestinien Anouar Abou Echeh déplorait cette semaine une solution trumpiste entre hommes d'affaires loin de nos objectifs politiques, disait-il. Nous l'écouterons. Le Hamas a annoncé vendredi avoir besoin d'un délai supplémentaire pour examiner ce plan de Donald Trump, le mouvement islamiste qui est aujourd'hui acculé, nous dira le géopolitologue David Rigoulet-Rose. Il porte le nom d'une génération, en colère au Maroc, la Gen Z. Des jeunes gens âgés d'une vingtaine d'années font part de leur colère. Le collectif Gen Z 212, comme l'indicatif du Maroc, demande la démission du gouvernement après une série de soirées de manifestations. Parmi leurs revendications, de meilleurs services de santé et d'éducation, des manifestations sociales inédites par leur spontanéité. Elles font suite à des protestations qui ont démarré à la mi-septembre dans plusieurs villes après la mort à l'hôpital public d'Agadir de 8 femmes enceintes admises pour césarienne. Les jeunes ont l'impression que les syndicats et les partis politiques ne servent plus à rien, nous dit une responsable politique, la députée PSU Nabila Mounib.
Exactement, les jeunes ils ont l'impression que les partis politiques et les syndicats ne servent plus à rien parce qu'ils n'arrivent pas à faire pression. Ils voient comment ça se passe au niveau du Parlement. On a une majorité absolue qui fait passer tous les dictats du FMI et de la Banque mondiale, qui privatisent à tout vent, qui libéralisent de manière anarchique toutes les institutions et les entreprises publiques marocaines. Donc, ils se disent que ces gens sont en train de brader le Maroc. Et là, il n'y a personne pour les arrêter, d'autant plus que les partis politiques de l'opposition sont en nombre insuffisant pour bloquer ou pour présenter une motion de censure ou quoi que ce soit. Et même au-delà de tout ça, même leur discours, ils ne sont pas au niveau. Pas tous, ils ne sont pas au niveau
de l'opposition dans ceux qui le combattent.
Oui, les jeunes disent que les partis de l'opposition ont vendu le match depuis longtemps, mais moi je dis qu'il y a eu une grande opération de cooptation, de discréditation des partis politiques. Il y a eu des virus qui ont été introduits à l'intérieur de ces partis, à l'intérieur même du gouvernement, parce que même quand on a eu le gouvernement de Abdelrahman Youssoufi pour la première fois un parti de gauche, on l'a pas laissé gouverner. On l'a bloqué de toutes parts. Il a passé un mandat de 4 ans. Après, hop, on l'a descendu alors qu'il venait de mettre le pied à l'étrier. Il voulait mettre en place des réformes pour vraiment mettre en place un état de justice sociale.
C'était la députée membre du Parti Socialiste Unifié, Nabila Mounib. Le rétablissement des sanctions contre l'Iran relatives à son programme nucléaire, décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans la foulée, Berlin, Londres et Paris ont appelé l'Iran à s'abstenir de toute action escalatoire. Washington avait appelé l'Iran à accepter des pourparlers directs. L'Union européenne a confirmé lundi dernier avoir rétabli également les sanctions. Éclairage sur ce dossier avec Kevan Gafaiti, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris, président fondateur de l'Institut des Relations internationales et de géopolitique. Question posée à Kevan Gafaiti, ces sanctions sont-elles susceptibles de nuire au programme nucléaire iranien ?
Est-ce que les sanctions ont réellement un rôle ? Écoutez, vous avez énormément d'études politiques, mais aussi statistiques et mathématiques, qui démontrent que les sanctions économiques, en général, pas spécifiquement vis-à-vis de l'Iran, sont globalement assez inefficaces, ont un effet presque nul, voire contre-productives, puisqu'elles sont en fait autoconfirmatives. Elles vont confirmer, entre guillemets, le récit de certains États, à l'image de l'Iran, qui va dire « Mais regardez, si nous sommes en difficulté, c'est parce que le monde est contre nous, et les sanctions viennent en fait conforter la position et donc peut-être même crisper les positions iraniennes. » Donc l'efficacité des sanctions économiques, moi je la mets énormément en doute.
C'était le géopolitologue Kevan Gafaiti. Le plan dit de paix pour la bande de Gaza verra-t-il le jour? S'il était accepté par l'ensemble des belligérants, le Hamas et Israël, la bande de Gaza devrait être gouvernée de façon transitoire par un comité palestinien technocratique et apolitique, un comité chargé d'assurer la gestion quotidienne des services publics et des municipalités pour la population de Gaza. Il serait placé sous la supervision et le contrôle d'un nouvel organe international de transition. Ce comité de la paix, comme il est appelé, serait alors dirigé et présidé par Donald Trump. L'ancien premier ministre britannique Tony Blair en ferait aussi partie. Sur Radio Orient, l'ancien ministre palestinien Anwar Abu Esheh déplorait cette semaine une solution trumpiste entre hommes d'affaires loin de nos objectifs politiques.
Écoutez, moi je crois que nous devons surtout et avant tout et aussi rapidement que possible organiser des élections démocratiquement. Tout l'Occident veut un État démocratique, nous aussi. Donc je crois que tout ça sera éclairci et sera bien réglé et une fois que nous organisons des élections. Voilà pourquoi pour les Palestiniens c'est une priorité d'organiser des élections. Dans ce cas-là, nous n'aurons pas de problème entre Hamas ou pas Hamas ou d'autres organisations.
Un point très important, Monsieur le Ministre, le fait que la bande de Gaza devra, selon ce plan, s'il est appliqué, être gouvernée de façon transitoire par un comité palestinien technocratique et apolitique, un comité chargé d'assurer la gestion quotidienne des services publics et des municipalités pour la population à Gaza, mais un comité placé sous la supervision et le contrôle d'un nouvel organe de transition. Et il serait dirigé par Donald Trump, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, en ferait également partie. Alors vous avez souligné que vous souhaitiez que les Palestiniens, bien entendu, puissent s'affirmer au sein de cette gouvernance. Comment accueillez-vous cela ?
Directement et franchement, très mal. Encore une fois, on décide pour les Palestiniens sans le consulter et on nous amène un Tony Blair que, en haut commissaire britannique, ça nous rappelle le mandat britannique, hein. C'est un haut commissaire, homme d'affaires, que nous connaissons bien parce qu'il était le représentant de Quartet il y a une quinzaine d'années et pendant 8 ans qu'il avait ses bureaux à Jérusalem, il n'a absolument rien fait pour les Palestiniens. Nous avons constaté depuis très longtemps qu'il se fout de droit international, qu'il se fout de la paix, il se fout de l'intérêt du peuple palestinien. Donc à ce propos, je crois que c'est une chose très négative, je ne comprends pas que ces gens se donnent le droit de nous gouverner alors que nous sommes chez nous, dans notre pays, et il y a des impérialistes qui viendraient de l'extérieur pour nous gouverner et régir. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner.
L'ancien ministre palestinien Anwar Abu Esheh. Et le Hamas a annoncé vendredi avoir besoin d'un délai supplémentaire pour examiner le plan de Donald Trump. Le Hamas qui n'a jamais été aussi contraint, nous dit David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IFAS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Ah, il est très contraint là, de toute façon, puisque sa situation militaire, on la connaît. Il y a eu une guerre d'attrition contre l'organisation depuis... plusieurs mois de manière renforcée avec la reprise des hostilités, donc il est dans une situation très difficile. Il y a politiquement un isolement, même si il s'était crédité finalement des déclarations en faveur d'un État palestinien en préemptant la légitimité de la cause palestinienne, mais en réalité il est très isolé puisque dans les déclarations en question il y a un prérequis qui est l'isolement définitif du Hamas, en tout cas sa mise à l'écart. Et donc effectivement aujourd'hui il est dans une situation extrêmement difficile où son choix est des plus réduits, tout simplement parce que les contraintes qui pèsent sur lui n'ont jamais été aussi fortes.
Et parce que s'il refuse ce plan, il sera présenté comme le mouvement qui aura voulu poursuivre cette guerre.
Oui, et alors d'aucuns considèrent que c'est là-dessus que parie Benjamin Netanyahou pour continuer la guerre, mais c'est pas ce que souhaite Donald Trump. Donald Trump veut un arrêt des hostilités. Et donc il se trouve que le Premier ministre, bon gré mal gré, a validé le plan qui lui a été soumis par par le président américain, tout simplement parce qu'il est débiteur vis-à-vis de Donald Trump. Mais évidemment, c'est conditionné par l'accord, l'acceptation du Hamas, qui n'est pas assuré, même si on peut penser qu'il n'aura pas vraiment le choix, parce que de toute façon, sinon, ça sera la poursuite de l'opération en cours jusqu'à sa disparition complète.
David Rigoulet-Ros, chercheur à l'IFAS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Fin de votre Grand Angle Hebdo, émission que vous pouvez retrouver sur votre site internet radioorient.com et sur les réseaux sociaux de votre radio. Excellente suite des programmes à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.